Studio Tamani, voici nos informations en français.
À la mise en onde, Gagné Kanté, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de cette édition. Alors que les examens de fin d'année pointent à l'horizon, plus de 144 écoles restent fermées dans la région de Ségou, une situation qui prive 23 000 élèves de leur droit à l'éducation et met plus de 400 enseignants au chômage technique. Les déplacés qui ont rejoint récemment le site de Bawa dans la région de Gao disent être confrontés à des difficultés. Arrivés sur ce site en février dernier, ces personnes bénéficient du soutien de quelques ONG nationales et internationales. Quand les pâtisseries et les restaurants subissent la flambée du prix du gaz, face à la situation, beaucoup d'entre eux se rabattent sur le charbon de bois comme alternative, ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs revenus. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sikou Gadjigo, mesdames, messieurs, bienvenue. 144 écoles sont fermées à ce jour dans la région de Ségou à cause de l'insécurité. Ce chiffre alarmant est donné par l'Académie d'enseignement de Ségou. Cette situation concerne notamment les localités de Farako, Nyonon et Massina. Ainsi, plus de 23 000 élèves sont privés de l'éducation dans la région. Le point avec notre envoyé spécial à Ségou, Arkia Touré.
Sur les 8 centres d'animation pédagogique de la région, 4 sont directement impactés par l'insécurité. Il s'agit des CAP de Farako, Nyonon, Massina et Markala. Au total, 144 établissements scolaires sont fermés, certains depuis 2020. Itous Ag Ahmed Iknan, directeur de l'Académie d'enseignement du Ségou.
76 à Farako, 50 à Nyonon, 10 à Massina et 8 à Markala.
23 000 élèves sont privés de leur droit à l'éducation dans la région. Néanmoins, à Farako, une commune située à 10 km de Ségou, les madrasas restent fonctionnelles. Elles arrivent même à participer aux examens, selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou, Itous Ag Ahmed Iknan.
À Farako, il y a quelques madrasas qui fonctionnent. Elles ont même participé à l'examen des DEF ici 2020 et 2021. Et même cette année, les élèves se déplaceront ici pour faire l'examen des DEF.
Suite à cette situation, plus de 480 enseignants sont au chômage technique. Selon Itous Ag Ahmed Iknan, certains ont pu être réintégrés dans les zones sécurisées et d'autres restent inactifs. Mais pour la synergie locale des enseignants de Ségou, c'est un risque de les redéployer. L'enseignant Bakari Fomba, porte-parole de la synergie locale de Ségou.
Si on redéploie ces militants-là dans les zones sécurisées, après les zones occupées-là et qui seront vraiment prises par l'État malien, est-ce qu'on aura encore des forces sur eux de les redéployer là-bas? Nous sommes à 10 km de Farako. Et Farako, aujourd'hui, on peut dire que l'État a les moyens quand même de déployer les militaires pour que ces enfants-là puissent continuer vraiment à étudier. On ne peut pas accepter que les anciens de Farako soient déployés à Ségou.
Nos tentatives pour faire réagir la mairie qui est chargée de la gestion de ces enseignants sont restées vaines. De Ségou, Arkia Touré pour Studio Tamani.
Studio Tamani à Ségou, c'est sur la radio Sania. Le ministère de l'Éducation nationale révèle que certains élèves de ces écoles fermées ont été réinstallés dans d'autres établissements. Il rassure que des dispositions sont prises pour permettre aux candidats des zones d'insécurité de prendre part aux examens. Kinan Agadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, est joint au téléphone par Mariam Koulibaly.
Il y a les candidats qui se sont inscrits dans les écoles des zones sécurisées, mais il y a aussi des centres qui sont déplacés vers des zones sécurisées. Il y a les deux cas de figure. Et dans les deux cas de figure, les enfants sont encadrés, il y a les cours de remédiation, il y a la prise en charge pour le déplacement, la restauration, l'hébergement, et qui est assurée en collaboration avec nos partenaires et avec les collectivités territoriales. Bon, les régions qui sont concernées, c'est les régions du nord, Menaka, Gao, Tombouctou. Ensuite, les régions du centre, Mopti, Sikasso, Ségou, San. Ce sont toutes ces régions aujourd'hui affectées par l'insécurité.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les enlèvements et disparitions d'enfants deviennent récurrents à Bamako. Presque chaque semaine, des cas sont signalés. Dimanche dernier, 12 juin, un enfant de 4 ans a été retrouvé par la protection civile à Amdala, commune 4 du district de Bamako. Selon des habitants, il aurait échappé à une tentative d'enlèvement. Ces derniers appellent les parents et les forces de sécurité à plus de vigilance. Les détails dans ce reportage de Sita Sidibé.
À Bamako, tout comme à l'intérieur du pays, les enfants sont de plus en plus victimes d'enlèvements ou de disparitions. Ces actes se passent dans les rues, voire dans les écoles parfois. Une situation qui préoccupe les populations. Elle demande la mise en place d'une cellule de surveillance dans chaque établissement scolaire.
Je pense qu'il faut renforcer la sécurité en mettant les porteurs d'uniforme à la porte de chaque établissement et il y aura plus de sécurité encore.
Je dirais que les parents doivent vraiment prendre beaucoup plus de rigueur, connaître là où les enfants vont.
À la descente de l'école, qu'ils dédient une personne pour aller chercher les enfants.
Durant toute l'année scolaire, des dispositions sont prises pour la réception de nos écoliers, affirment certains promoteurs d'école. Selon eux, chaque élève a une carte identique permettant à ses parents ou délégués de venir les accueillir à l'école. Funeke Keita est le promoteur d'une école privée à l'Hippodrome.
Nous avons des dispositions d'avoir à l'ouverture. Il y a une carte qui est remise à tous les parents. Tous les élèves de la première année au CP0 ont une carte. Jusqu'à la familiarisation des enseignants avec les parents qui viennent réceptionner les enfants. Donc à chaque fois que tu viens enlever ton enfant, tu présentes la carte. Les monitrices, aussi bien que la direction, restent jusqu'à ce que tout le monde vient réceptionner son enfant.
Notons que certaines personnes mal intentionnées s'infiltrent souvent dans les établissements scolaires pour tenter ces enlèvements, regrettent des responsables scolaires.
Direction Gao, l'insécurité à Tessit et Intilit dans la région de Gao a provoqué de nombreux déplacements. Ils sont des centaines de ménages sur un site aménagé à 7 km de la ville de Gao. Déjà prise en charge par des ONG nationales et internationales, ces déplacés disent être confrontés tout de même à quelques difficultés. Il s'agit entre autres du problème d'hébergement adéquat et d'alimentation. Le reportage de notre envoyé spécial de retour de Gao, Adama Amadou Aïdara.
Il y a d'autres qui sont venus dans les véhicules, d'autres aussi de leurs actes, d'autres aussi à pied arrivés ici. Quand ils ont leurs objets, il y a d'autres qui n'ont rien. Ils sont venus à mer vite.
C'est ce qui décrit les conditions dans lesquelles ces déplacés sont arrivés à Gao. Ils sont plus de 200 ménages, dont des femmes et des enfants, sur le site aménagé de Bawa. Ils déplorent la non-prise en charge de certains déplacés qui ont récemment rejoint le site. Cependant, Oumar Ag Mahamoud, déplacé d'une Tilit, affirme que sur le plan sanitaire et éducation, des mesures sont prises.
Il y a d'autres parents, depuis février jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu aucune assistance. Il y a l'UNICEF qui est en train de construire des hangars. Il y a l'académie aussi Bagondi qui a pris des enseignants des sites même. Ils les ont formés. Ils ont dit que là, bientôt, ils vont ouvrir des classes. Sur le plan sanitaire, il y a le programme RRM des MDM. S'il y a un malade ici, ils leur donnent aussi un coupon pour se soigner.
Notre souhait le plus ardent est de rentrer chez nous en toute sécurité, souligne ses déplacés.
Nous voulons des autorités de notre pays, des ONG, ainsi que des personnes de bonne volonté de nous aider. Les autorités doivent nous aider si elles reconnaissent réellement que nous sommes des Maliens.
Ces déplacés de Tessit et Intilit ont quitté leur localité depuis février 2022.
Après Gao, cap à présent sur Mopti où la pollution et la dégradation du fleuve Niger inquiètent les habitants et les autorités de la région. Ils l'ont exprimé ce mardi 14 juin 2022 lors du lancement des activités de la quinzaine de l'environnement dans la ville. Ils estiment qu'au-delà des discours, il est temps d'agir. Le point avec notre envoyé spécial à Mopti, Moumine Sendebou.
Des ordures par-ci, des mangues pourries et d'autres déchets par-là, c'est l'image qu'affichent les berges du fleuve à Mopti. À cause de ces facteurs qui polluent l'eau du fleuve, des riverains peinent à gagner leur pain quotidien. C'est le cas pour Fati Diallo, venue de Gao il y a une quarantaine d'années. Autrefois vendeuse de poissons, aujourd'hui elle vit du commerce d'isabon, un fruit local.
Les gens se bousculaient ici pour acheter du poisson, mais maintenant il n'y en a presque plus. J'ai arrêté la vente de poissons pour du sabbat.
Comme elle, de nombreuses personnes à Mopti-Ville et environ souffrent le martyr.
La dégradation du fleuve a eu beaucoup d'impact sur nous, surtout l'ensablement et les déchets versés. Nous buvons l'eau du fleuve. Dieu seul peut nous sauver.
Le poisson se fait rare avec la pollution du fleuve.
Je travaille sur les bateaux. La campagne Kulukoro-Gao ne dépasse pas 3 mois.
Cette dégradation du fleuve Bani de Mopti nuit énormément à la population sur l'aspect sanitaire et socio-économique, prévient Moussa Balo, directeur de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Mopti.
Si ce fleuve-là est sérieusement menacé, au-delà du sable aussi, on constate que des salités qui sont basses. Donc les conséquences sont multiples dans la région de Mopti. Presque chaque année, il y a des foyers de choléra qui se déclarent. L'agression vraiment de ce fleuve aujourd'hui nous expose à plusieurs sortes de
maladies. Les environnementalistes préconisent la mise en place des commissions de veille pour sensibiliser davantage la population et veiller sur l'hygiène des lieux.
Studio Tamani à Mopti, c'est sur la radio Kaoural 100.5 FM. Retour à présent à Bamako, je vous le disais dans les titres, l'augmentation du prix du gaz impacte négativement sur les activités des restaurateurs et pâtissiers dans la capitale malienne. Ceux qui travaillent avec le gaz affirment trouver une autre alternative. Comme alternative plutôt le charbon de bois, la situation se répercute aussi sur les consommateurs qui sont obligés d'acheter le double de ce qu'ils achetaient habituellement pour avoir suffisamment dans leurs assiettes. Aïssata Diarra fait le tour de quelques restaurants et pâtisseries, voici son reportage.
Le gaz est beaucoup plus utilisé par les pâtisseries, les restaurants et par les femmes dans la cuisine. Avec la flambée du prix du gaz, ils disent être dans l'obligation d'utiliser du charbon, même si cela s'avère moins efficace pour eux.
C'est quand même une difficulté pour nous, car on utilisait uniquement le gaz pour la cuisson. Avec la cherté du gaz, nous utilisons actuellement le charbon.
C'est devenu cher. On recharge le gaz à 7 500. Ça ne dure que 2 jours.
On prépare les petits plats avec du gaz. Pour le reste, on alterne avec du charbon qui nous met en retard.
Les achats au niveau des pâtisseries et restaurants subissent cette cherté. Des consommateurs soulignent qu'ils sont contraints d'acheter le double de ce qu'ils achetaient avant pour être rassasiés.
Oui, bien, Irani, gazide.
Les vendeurs utilisent du gaz pour préparer du foie. Avant, avec 500 francs, tu as rassasié. Maintenant, il faut débourser 750, voire 1000 francs.
Les vendeurs nous disent que le gaz a augmenté. Ils ont augmenté les prix de leurs produits aussi.
Actuellement, les vendeurs s'approvisionnent en difficulté. Pour qu'ils s'en sortent, ils vendent cher aussi.
Les vendeurs de nourriture et les consommateurs demandent aux autorités de subventionner les gaz afin de soulager leur souffrance.
Reportage signé Aïssata Diarra. Le premier convoi de pèlerins maliens doit quitter Bamako lundi prochain, 20 juin 2022. En attendant, les préparatifs du Hajj 2022 vont bon train selon les responsables de la maison du Hajj. Les 6032 pèlerins maliens des différentes agences ont commencé dimanche dernier une formation sur le déroulement du pèlerinage. Elle a pris fin ce mercredi 15 juin 2022, indiquent les organisateurs. Le reportage de Mamadou Samasiko.
Qu'il soit de la filière gouvernementale ou celle des privés, les pèlerins semblent satisfaits de cette session de formation.
Je n'ai plus peur vraiment avec tous les renseignements et les informations que nous venons d'avoir lors de la formation.
Moi, c'est ma première. Je ne m'attendais pas à m'enquérir autant d'informations autour du Hajj.
Ça a été vraiment une compréhension qui n'a pas été difficile. On apprécie les formateurs. Nous sommes vraiment motivés.
Cette formation sert de complément d'une série de formations tenues en août dernier, affirme Mamadou Sidibé, chef de bureau de formation de la maison du Hajj.
On a fait des sessions de formation à l'intention des pèlerins. Bon, cette formation aujourd'hui, c'est pour sanctionner tout ce que nous avons fait. Ça va permettre aux pèlerins de réviser ce qu'ils ont vu auparavant et les retardataires d'être imprégné de ce qu'ils doivent faire à la Mecque.
Pour cette année, les candidats prioritaires sont ceux déjà inscrits depuis 2020 et 2021. Les candidats qui n'ont pas eu de place devront attendre 2023, annonce la maison du Hajj. Mamadou Sidibé, chef de bureau de formation de la maison du Hajj.
Les prestations sont augmentées en Arabie Saoudite, donc évidemment, les pèlerins ils étaient appelés de compléter. Cette année, on a fixé l'âge à 65 ans. Et avec l'augmentation aussi, il y a d'autres qui n'ont pas pu compléter. Tous ceux qui sont venus après la décision, là, ils seront obligés d'attendre.
Le premier convoi des pèlerins maliens prendra son vol le lundi 20 juin 2022. Pour le Royaume d'Arabie Saoudite, annoncent les responsables de la maison du Hajj.
Radio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité en quelques brèves. Une trentaine de femmes de la commune urbaine de Gao, d'Ansongo et de Bourem ont été formées ce mercredi 15 juin sur l'outil Cercle de paix, un outil qui consiste à réunir les femmes en cercle pour leur permettre de discuter des questions de paix et de cohésion sociale. L'activité entre dans le cadre du projet Se reconstruire comme artisan de paix pour l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans la région de Gao. Il est piloté par l'ONG Wildaf et financé par l'ambassade de Grande-Bretagne. Amaïna Diallola, une fillette de moins de 7 ans en classe de première année, est décédée ce mardi suite à la morsure d'un serpent. Ses parents l'avaient amenée d'urgence dans un village du nom de Tantoudji, situé à 6 km de Maïna pour des soins traditionnels. Elle a succombé à ses blessures. Des habitants de la localité ont accusé les parents de la jeune fille pour d'avoir choisi les tradithérapeutes au détriment de l'hôpital. À 8h passées de 15 minutes, se referme cette édition. Mise en onde par Gagny Kanté, présentée par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Thank you.